nu pour ce barbecue foot débrief. Et oui, on fait une petite exception quand l'actualité est chaude brûlante. Bon, elle a légèrement refroidi, hein, comme l'indique le titre. C'est un débrief à chaud, ou presque. Donc, ça a tiédi. On a pu redescendre en température, surtout nous, supporters parisiens, qui espérons être rejoints en demi par les Marseillais et les Lillois demain. Donc, si vous avez choisi de couper les commentaires de City, Real Madrid ou c'est Bayern,
oui, parce
Arsenal, c'est dans ce sens-là.
Bayern Arsenal, vous pourrez regarder tranquillement les matchs sans écouter les commentaires. C'est de la chiasse. Donc venez nous entendre, venez nous écouter.
Sur celui sur Canal, c'est Christophe Jallet en consultant. Donc c'est un des consultants que j'aime bien. Donc, comme vous avez pu l'entendre de sa douce voix pour m'accompagner ce soir dans mon euphorie. D'ailleurs, vous avez vu, je suis déjà parti dans un tunnel tellement je suis tout foufou. C'est Carlos Miser. Ça va, mon Carlos ?
Eh ben bonjour, bonsoir. Ben oui, j'ai vu. Contrairement à notre autre acolyte, j'ai vu une équipe qui gagnait. Ça faisait plaisir quand même. Donc ça va bien, ça va bien. On va pouvoir parler tranquillement d'un match où on avait pratiquement tout annoncé, hein, mon petit Arnaud. Parce que c'est toujours, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, mais il faut aussi dire quand les gens ne se trompent pas et pronostiquent pratiquement le match qui va se passer.
Hein. Ouais, ben oui. On avait dit que s'ils donnaient ce qu'ils avaient à donner,
c'est important de le dire.
C'était faisable. Donc c'est pour ça que je parlais des deux autres clubs français parce que eux ils sont dans une position quasi plus favorable en recevant avec un seul but d'écart pour au moins aller en prolongation. Donc en tout cas on leur souhaite. Le deuxième acolyte et donc le troisième larron de ce barbecue foot débrief, il est de retour. Comme on dit souvent dans le bouchonnois, c'est non pas Clément Fantôme, c'est Jérôme Leroy du Stade, parce qu'il est passé par Paris. Mais tu vas me dire que Clément Fantôme aussi, d'ailleurs.
Je me posais la question, justement, avant de. Je n'étais plus sûr. Mais...
Ah, bah, Clément, il est même formé à Paris. Donc,
oui, c'est ça, oui.
Et Jérôme Leroy, non. Je ne sais plus où est-ce qu'il est formé, Jérôme. Jérôme, il est particulier. Il a fait Paris, Marseille, Paris.
Rennes.
Voilà. Lui, on ne lui en veut pas. Hein, comparé à Ulrik Chana, Gabriel Heinze, Fiorez, DU, hein, les traîtres. Lui, Jérôme, il est dans le sens.
Oui.
On va dire que c'était un joueur à part. Hein.
Quand tu as un technicien pareil, tu ne peux pas dire « Oh, bah non, voilà ».
Clairement.
Je suis de retour. Je n'étais pas parti très loin non plus. Hein. Bon, je me suis dit.
Jérôme.
Vu les performances du Stade Rennais et de Liverpool en ce moment, on va parler des équipes qui gagnent un peu et puis ça va me changer. Ça va me changer la tête. Voilà.
Tout à fait. C'est parti pour ce débrief qui ne va pas extrêmement durer longtemps. Hein, parce que vous avez déjà eu beaucoup de petits débriefs dans tous les sens, plus ou moins longs. De toute façon, Carlos a un impératif parce que il est un des rares en France à travailler.
J'ai récupéré ma fille. Qui fait une soirée.
Non, c'est un bon père de famille, c'est ça, c'est surtout ça.
C'est ça. Je bats ma coupe. Schlack, 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 schlack.
Ça marche. Les pères indignes, nous, on abandonne femmes et enfants.
C'est ça, vous êtes trop vieux. Vous
n'avez
plus rien à fiche,
c'est ça. Ils sont surtout trop petits, les miens. Ils ne sont pas encore. Ça va. Allez, on est parti. Je redresse rapidement le fil du match. Paris qui rentre bien dans le match, qui fait le pressing, bah finalement comme au match aller, et qui se fait cueillir pour la première fois au Barcelone, à la limite le ballon, et qui rentre dans le camp parisien, il rentre dans la surface après que Lamine Yamal est mis dans le vent totalement Nuno Mendes. Il centre Rafinha qui devance Hakimi et un Didio qui était un peu parti aux fraises, enfin qui avait fermé son poteau pour éviter la frappe de Yamal, mais il avait
fermé le poteau des tribunes hein, quand même. Hein.
C'est exceptionnel. Hein. Non mais c'est la vitesse d'exécution quand même qui est hallucinante. Ouais. Quoi. Je ferme mon poteau, je me déplace. Tu sais, c'est comme quand t'apprends à te déplacer en pas chassé là. Non mais c'est bon. Ouais. Enfin, la réaction sur le. Enfin, bon, Nuno Mendes l'a bien aidé avant, mais quand même, moi je me dis là, c'est compliqué quand même. Ouais. C'est compliqué pour Paris. C'est-à-dire qu'à ce moment du match, je me suis dit voilà, bon. C'est fini.
Disons que ouais, t'es assez mal embarqué. Ouais. C'est vrai que t'es pris de vitesse sur toute l'action. Tu dis que ça peut être compliqué, alors que le Real vient d'ouvrir le score à la deuxième minute de jeu contre City.
Ça, c'est bon. Ça. La Guardiolinette, hop, à la trappe.
But de Rodrigo.
Pour avoir le Real, franchement.
Un pari Real à la fin. Oh, qu'est-ce que ça va être marrant pour certains.
Il y aura quand même une demi qui va être un peu compliquée quand même de l'autre côté du tableau. Te prendre Arsenal ou le Bayern, non, c'est jamais forcément évident. Dis quand même que c'est assez mal embarqué sur le match. Et puis le tourment. On parle.
Alors, juste un peu entre le but et le carton et le tournant. Moi, ce que je trouve, c'est que ce qui est assez impressionnant comparé aux autres années de Paris, c'est que alors que Paris aurait pu totalement s'effondrer et se dire bon, en fait, on s'affole, on balance tout. J'ai eu l'impression d'une sorte de match de boxe où en fait, un des deux boxeurs qui part avec une vraie tactique de combat. Qui se dit il faut qu'il vise un point vraiment très précis chez l'autre, et même s'il va se prendre des patates, des machins qui valent une ou deux fois au tapis, il va continuer sur son schéma de jeu. Et c'est vraiment cette impression tactique. Paris s'est jamais départi de son schéma de jeu, et tu vois comment il s'appelle, Dembélé a fait du Dembélé et a toujours continué. Il n'y a jamais eu d'affolement véritablement. Et moi, c'est ça que je trouve assez impressionnant de cette équipe, quoi. Tu vois,
ça vient de l'entraîneur aussi. Enfin, faut le voir.
Fallait le voir sur le bord du terrain parce qu'on
cite souvent Klopp, Guardiola quand on les voit sur le bord du terrain, qui sont dans le match. Lui, il était dans son match. Enfin, franchement, j'ai rarement vu un type aussi concentré sur son banc de touche et aussi actif de la première à la dernière minute. Enfin, franchement, voilà. Et replacer ses joueurs et voilà. Enfin, il faisait pas des moulinets, quoi. Il faisait vraiment. On sentait qu'il parlait aux joueurs. Alors peut-être que c'était plus facile dans ce stade qu'au Camp Nou. Finalement, parce que
le Nou Camp, c'est pas, c'est en fait dire qu'il y a quand même beaucoup de stades qui sont pas bruyants. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui en Grèce, en Turquie, mais tu vas en Angleterre, c'est mort. Tu vas en Espagne, c'est mort. Même. La Real Sociedad, le Inueta, c'est beaucoup plus bruyant que le Nou Camp à 100 000 personnes. C'est, on se souvient quand même que pendant en 2017, le dernier match au Nou Camp sur Paris, la fameuse remontada, les supporters parisiens à 3 000 personnes faisaient plus de bruit que 100 000. Que les 97 pilotes. Donc,
et surtout, là, je trouvais qu'on entendait quand même pas mal.
Oui, on entend toujours les Parisiens. À Liverpool, on les avait entendus aussi. Mais après, c'est... En fait, si tu
savoir où sont les micros, quoi, parce que c'est...
À Liverpool, tout le monde sait, et tu devrais le savoir aussi, que ça chante le You Never Open au départ, et derrière, ils sont au théâtre.
Ouais,
on les entend plus. En fait, les supporters liverpooliens qui font du bruit, et c'est quasiment un trait de beaucoup des grands clubs, en fait, tu les as en déplacement.
Oui, oui.
Les vrais ultras des clubs anglais.
Non, mais ça, je suis d'accord. Anglais, oui, oui.
C'est en déplacement. En fait, les prix sont tellement chers à domicile que finalement, les ultras entre guillemets, sont en déplacement.
Puis c'est pas ça, c'est que surtout aussi, dès que tu lèves un petit doigt en première ligue, voilà, ça devient
c'est
compliqué.
Pas faux. C'est pas faux.
Voilà. Mais non, mais c'est pour ça, moi, je m'attends à une belle ambiance aussi à Bergame. Mais bon. Voilà, est-ce qu'il y aura un miracle comme... Bon, c'est pas le sujet du soir.
On te le souhaite, comme dirait l'autre.
Défensivement, c'était compliqué et ça l'a été un peu tout le long du match parce que, moi, justement, tu parlais de Nuno Mendes qui est offensivement et apporte énormément et Hakimi, mais défensivement et Hakimi, moi, j'ai franchement du mal avec ce joueur parce que c'est vraiment.
Il a fait un bon début de saison et depuis.
Non, mais là sur le match, sur un match,
c'est compliqué. Ouais.
Voilà, et sur un match, il est, enfin, c'est sur courant alternatif. Quoi. Moi, la première mi-temps, il m'a vraiment agacé, quoi. Enfin,
après, c'est le côté asymétrique de Paris où le rôle d'Hakimi n'est quasiment plus celui d'un arrière latéral, mais d'un milieu d'appoint, voire d'un ailier. Où il vient dédoubler avec Dembélé, où ça a été aidé par et souligné par les commentateurs, il y avait une moins bonne entente que sur le côté gauche. Alors que ce côté droit était vraiment un point fort de Paris sur le début de saison. Bon, enfin bref. Donc il y a ce fameux 1-0. On frise le 2-0 avec la frappe de Lewandowski très forte juste au-dessus de la barre.
Ouais.
Il est cadre. Lewandowski a vraiment été là pour le coup. Autant il s'est baladé sur le match aller, autant sur le retour. Bah, bizarrement, quand tu lui mets Lucas Hernandez, qu'il a côtoyé quelques années au Bayern Munich, donc techniquement il sait comment le monsieur il se comporte. Bah, d'un seul coup, ça va beaucoup mieux. Hein. Là, le père Lewandowski, il a quasiment pas gagné un ballon dans les duels, alors que la défense parisienne, on avait voilà. Ouf, barre de Haaland et Bernardo Silva qui la met à côté. C'est ça presse côté City. Donc là c'était vraiment compliqué. Mais comme l'a très bien souligné Carlos, les Parisiens ne se démobilisent pas. La tactique vraiment bien mise en place. Ça écarte bien sur le côté avec Barcola et Dembélé. Souligner le match collectif de Kylian. Et vous savez que si vous êtes des auditeurs fidèles, je me gêne pas pour le défoncer et bien souligner quand ça va pas, mais match très collectif de Mbappé qui a fait le travail, qui a fermé.
Surtout en deuxième, parce que.
Mais même sur la première, il ferme Kubarsi. Ouais,
je l'ai vu s'arrêter disant non, moi je vais pas revenir défendre. Mais bon, voilà.
Après il ferme bien du côté de la 29e minute, 28-29e, ça ferme bien Kubarsi, ça oblige à Rojo vous m'excuserez hein, mon espagnol est pourri donc moi ça sera à Rojo.
Hein. Oui ben voilà, à Rojo. Ouais.
Et donc il force à Rojo à la relance qui est vraiment pas son point fort. Ça atterrit dans les pieds de Nuno Mendes qui transmet tout de suite en transition pour le petit Barcola et le Bradley qui s'en va tout seul au but. Il est rattrapé par la patrouille à Rojo. Carton rouge. Totalement logique. Hein. Je pense que, à part les Barcelonais, je pense que toute la Terre a compris qu'il y avait carton rouge. Après, il essaye de trouver tous les arguments.
Hein. Surtout.
Kubarsi, il n'est pas dernier défenseur, donc Kubarsi qui peut revenir, alors que le mec, ils sont aux 18 mètres et Kubarsi, il est au centre.
Non, mais c'est comment c'est mettre son partenaire là. C'est...
Ouais, Kubarsi.
Qui monte l'épaule.
Oui, après lui aussi, il y va à l'épaule. Ouais. Mais en
non,
fait,
qui dit que ça a été touché. Enfin, il dit oui, il y a bien
oui, eu. C'est un duel à l'épaule. C'est un duel physique à l'épaule. Mais le gros problème de, c'est que le Bradley joue très bien le coup en se mettant dans sa course. Donc tous ceux qui ont été un peu défenseurs savent que dès que tu commences à être derrière le joueur, que tu poursuis, bah, il suffit de pas grand-chose pour le faire, pour le déséquilibrer. Là, Arojo attrape l'épaule de Bradley. Il peut aussi y avoir pénalty parce que le point de contact se commence en dehors de la surface, mais finit dedans. Et donc, sur ce genre de truc, la faute est finalement aussi à l'intérieur. Donc, tu peux avoir pénalty carton rouge. C'est le tournant du match, parce qu'on va le voir justement. Bon, le coup franc ne donne rien, il passe au-dessus. Mais là, dès lors, le Barça est complètement la tête à l'envers. Xavi va péter une durite et va se faire exclure.
Oui, ben, nos camarades sur le groupe qui nous a envoyé la traduction de ce qu'il a dit à l'arbitre. Oui, bon,
c'est ça.
Donc, il a insulté sa mère sur 10 générations.
Et, ah, bah, c'était du Cervantes, hein, tout le monde.
c'était du gros Xavi. Xavi
ah, c'était, donc, il pète une durite, hein, sachant que Cadix, le match en championnat, il était absent parce qu'il avait été suspendu. Il s'est pris énormément de cartons rouges. Donc, c'est quelqu'un qui perd facilement les pédales.
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il ne perdait pas. Enfin, moi, je ne me rappelle pas d'un joueur.
Non, c'est ce que disait. C'est ce que.
Ouais.
Mais après il y a quand même énormément de pression au niveau du Barça. Pression aussi financière, enfin, outre la pression de résultat. C'est quand même un club qui est.
Ouais, mais même quand ça allait, c'était pas aussi compliqué. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions sur le banc.
C'est pas la même gestion, hein. C'est là que tu es direction.
Ah non, mais c'est pour ça, c'est que ça fait partie des entraîneurs à qui on a donné des responsabilités un peu trop tôt, trop vite. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait gagné à être soit dans un club intermédiaire, soit être adjoint avant de faire autre chose.
Et à comparaison, tu vois un Luis Enrique qui était peut-être plus. Qui avait un tempérament plus latin, disons, sur le terrain, lui, sur son banc, il s'agite, mais pas, il fait fi de l'arbitre ou de quoi que ce soit. Enfin, il reste dans son match, quoi. Ben, c'est comme ça qu'on reconnaît les grands entraîneurs, hein. Tout le monde ne s'appelle pas Duprat.
C'est ça. Ou comme Boiré, casque d'or.
J'ai plus de respect pour Cambouré que pour Duprat quand même. Faut pas déconner non plus.
Ah non.
Ah si.
Ah non, moi j'aime bien.
Cambouré connaît le foot. Duprat il connaît rien. Non, mais sérieusement les gars.
Mais quelle indignité.
C'est pas le sujet du soir, mais non.
Est-ce qu'on va parler d'un Gourvennec?
Non. On jettera un voile pudique sur.
C'est pas parce que dès qu'on parle d'Argentin, faut mettre un Rennais dans la sauce. C'est terrible ça, monsieur. Non,
les entraîneurs les présidents de Ligue 1 n'ont pas de mémoire, donc on sait que Gourvennec retrouvera un banc du côté de la Bretagne. Paris remet le pied sur le ballon. Inigo Martinez qui rentre à la place de Lamine Yamal, ça peut être aussi un tournant parce que tu enlèves de la vitesse devant.
Le problème, c'est que tu aurais fait sortir qui, parce que tu sors un milieu de terrain où tu te dis tu as quand même deux buts d'avance.
Tu peux rester à la limite. Est-ce que Inigo Martinez en défense centrale c'est mieux qu'un Frenkie de Jong qui recule?
De Jong, il y a une blessure, quoi.
En défense centrale, tu te blesses moins qu'au milieu de terrain, hein, au niveau de l'intensité. Ah,
mais c'est l'intensité du duel, c'est-à-dire que tu n'as plus l'habitude de ça, et sachant qu'en plus, tu as un Kiki en pleine bourre qui peut venir te chatouiller les talons.
En pleine bourre? T'as pas vu les derniers matchs de Paris?
Non, mais en pleine bourre, ce que je veux dire, c'est que sur un match comme ça, tu sais qu'il peut faire une dinguerie total, et de mettre un réel défenseur au niveau de ta charnière, pour moi, ça ne me choque pas, tu vois. Après, peut-être faire sortir Rafinha, hein, parce que moi, Rafinha, après...
Tu prives devant, et le gros problème, c'est que le Barça, Et ça a été un petit peu le gros souci pour eux, parce qu'on en a vu hein, des équipes réduites à 10 et qui réussissent à maintenir un score. Peut-être tu t'en prends un, mais voilà, tu réussis à faire le 1 partout. Et les équipes italiennes, tu prends l'Inter, tu prends l'Atletico, tu prends Chelsea en Ligue des Champions, même réduit à 10, ils avaient réussi à garder le score contre des grosses machines devant elles. Mais là, tu sens que le Barça est complètement dépassé. Paris continue à appuyer et on va dire ce qui arrive, ce qui doit arriver, c'est-à-dire le deuxième but de Dembélé dans la confrontation. Il faut savoir que bon, Dembélé maintenant a mis plus de buts en Ligue des Champions en deux matchs qu'en championnat, qu'en Ligue 1. Donc attention, joueur de Dortmund, il y a encore un match, un Dembélé Ico, donc il va encore arriver. Donc Ous qui cette fois-ci ne tue.
Ouais, mais il a moins de rancune, je pense, vis-à-vis de Dortmund que du Barça.
Ah bah il y a aucune rancune, hein, dire Dortmund.
Ah oui, non, il a fait le.
C'est
job,
des voleurs d'enfants comme Leipzig, mais si tu viens avec 120 millions, tu repars avec le joueur. Hein. Eux, il y a aucun problème. Donc voilà, donc Ousmane qui reprend un superbe centre de Bradley sur le côté, deuxième poteau sous la barre.
Et dire que
peut rien faire.
Des journalistes.
Marco, là, j'avais trouvé un peu sur certaines, il y avait un centre juste avant qui m'avait un peu agacé parce que j'avais trouvé un peu mou et il m'a fait mentir. Mais il y a beaucoup d'actions qui m'ont fait mentir sur voilà.
Et dire que certains pseudo journalistes. Certains,
par rapport à Vitinha, justement. Mais en même temps, Vitinha, on en reparlera plus tard, mais voilà.
Certains pseudo-journalistes avaient dit « Barcola à Paris, c'est une honte, mais Paris, c'est plus acheté. »
Oui, mais il faut arrêter de dire le progrès, monsieur. Voilà.
Alors, je vais faire un aparté. Ce matin, je me suis dit « Allez, je vais faire œuvre de contrition. Je vais quand même écouter l'émission foot de référence en France. » En podcast.
Oh, pas attention. Ouais. Après les barbecues.
Après nous, bien sûr.
Et voilà, après mais Radio Merguez.
J'ai été jusqu'au bout de l'émission, mais j'ai saigné des oreilles. Mais c'est pas possible d'enchaîner. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un biais de confirmation, vous écoutez des journalistes hein, de cette émission qui ont décidé depuis le début de saison que Luis Enrique est nul. Et que si Paris gagne, c'est simplement grâce à ses joueurs, vous les écoutez, et c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se confirment de plus en plus que de toute façon, Luis Enrique n'y arrivera pas, alors qu'il fait demi-finale de Coupe d'Europe, enfin de Ligue des Champions, champion de France et finale de Coupe de France, chose que Paris n'a pas fait depuis pratiquement 3-4 ans.
Le dernier doublé championnat-coupe, c'est
2017. Et 2020, Covid, oui, mais Covid, le championnat a arrêté. Mais le vrai championnat.
Oui, mais t'es champion de France quand même. Et tu gagnes la coupe contre Saint-Etienne.
Alors, oui. Oui, mon petit Arnaud, on peut dire ça. Mais le vrai championnat fini. Qui finit à 38
points. Tu fais quand même le triplé national avec la Super Coupe. Ah, ben, dans les lignes de palmarès, ça y est.
Oui.
Bon, revenons au match.
C'est une journée belle pour toi. Voilà. Je ne vais pas t'énerver.
Non, monsieur.
Je te laisse apprécier ton plaisir.
On ne l'énervera pas. On n'arrivera pas.
Et donc après ça, on arrive à la mi-temps. Je sens même qu'avant la mi-temps, ça pousse quand même. Et que tu peux mettre ce deuxième but même avant le repos. Mais en tout cas, tu sens que c'est qu'une question de temps. Je sais pas si pendant le match vous avez ressenti ça, mais tu avais ce sentiment d'inéluctable. Alors sauf le côté parisien où tu sais que tu peux avoir une dinguerie à la 88e avec un CSC où les mecs ils frappent dans le cul de l'autre et ça rentre dans le but. Enfin bref, c'est on l'a vu quelques fois à Paris et finalement. Le dégagement dans le cul qui finit en passe décisive, on l'a vu sur le quatrième but parisien, mais avant ça...
Vous ne comprenez pas, Luis Enrique leur a donné du Smecta. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait un caca de culotte. Ils ont eu leur dose de Smecta avant le match.
En tout cas, c'est vrai que, en anticipant sur entre guillemets les notes, c'est que sur ce match, côté parisien, il n'y a aucun flop. À part peut-être Didio qui n'est pas ouf, mais en fin de match, quand il doit faire les arrêts, il les fait aussi.
Mais comme tu l'as dit, l'équipe a quand même un peu surestimé aussi, quoi. Faut pas déconner. Ils ont pas fait, les joueurs ils ont fait un très bon match, mais les joueurs, tu vois, Mbappé était pas à son prime, etc. Donc, les notes de l'équipe, ça reflète pas du tout le match, quoi.
Non, c'est
vrai que. Je suis d'accord avec ce que t'as corrigé, c'est que tu mets un ou deux points de moins à chacun, parce que faut pas déconner non plus.
Tu vois, Jérôme, je suis d'accord et un peu pas d'accord avec toi. Je trouve que effectivement, ils méritent pas forcément d'avoir les notes de l'équipe, mais je trouve que ce qui est très intéressant et qu'on a très très peu vu ces dernières années sur Paris, c'est vraiment ce travail collectif. Et
tu dois noter les demi-temps. Tu dois noter les joueurs sur demi-temps. Et sur la première mi-temps, je suis désolé, Mbappé, il est pas exceptionnel. Bon, et sur la deuxième, il est correct, mais sans plus. Enfin, il y a pas de.
Mais tu vois, Jérôme.
Mais il fait le travail.
Ouais, il fait son job.
C'est pas sa compétence, tu vois. Et tu vois.
Tu prends n'importe quel joueur de première ligue ou même du Real ou de je sais pas quoi. C'est un mardi, quoi. Faut pas déconner, quoi, les gars. C'est
ce qu'on veut. Après, il a fait ce qu'aujourd'hui un neuf doit faire.
Voilà.
Et tu prends les Haaland, par exemple. C'est vrai qu'on lui reproche sur quelques matchs, sur ces derniers matchs, de pas forcément mettre beaucoup de buts, etc. Mais il fait quand même un travail de premier défenseur, à couper, à essayer de se mettre sur les lignes de passe, à faire des petits pressings, à faire des courses à vide. En première mi-temps, on voit aussi c'est en deuxième, où on voit que Mbappé, au lieu de frapper comme un gogol, il décale Fabien Ruiz sur le côté gauche, qui frappe, et ça passe pas. Je crois qu'il y a un arrêt de Ter Stegen. Donc, il est dans le mood collectif, et donc c'est pour ça que. Oui, il met deux buts,
Ter Stegen en plus hier. Hein.
Il y a le troisième, contre Ter Stegen, qui n'est pas un mauvais gardien.
Quand il sort la frappe du bras gauche là, de l'avant-bras gauche.
Ouais.
Faut le mettre.
Et le penalty
qui prend 4 dans l'équipe, Ter Stegen, il a au moins 5 ou 6.
Ah bah.
Il fait quand même des arrêts de malade, quoi.
Le penalty est super bien tiré. Hein.
Ah oui, là au moins oui. Bah c'est ce qu'on lui demande de faire au moins. Non mais là, c'est et puis ça fait mentir certains qui disent que c'est une loterie. Enfin là, tu sens que le gars, les mecs ils s'entraînent quoi. C'est normal.
Parce que Ter Stegen, il était parti du bon côté. Hein. Tu sens que.
Non mais parce que c'est un bar. Parce qu'un penalty, voilà, ça doit être à mi-hauteur ou sous la barre et voilà, c'est tout. C'est statistique. On le sait. Quand tu tires ton penalty, tu fais un tir. Je s'en fous que le gardien parte du bon côté, mais le tir doit être imprenable, c'est tout.
Mais voilà, même à vouloir prendre à contre-pied, comme tu le dis, un penalty bien tiré sous la barre, sur le côté,
bien sûr.
C'est imparable.
C'est imparable. Même si le gardien peut la toucher, et si elle est vraiment en force, ça rentre. On l'a vu, ça m'énerve parce que c'est voilà que travailler vos pénalties quoi. Enfin, franchement, faites des séances quoi. Prenez une heure, j'en sais rien, pas une heure, mais prenez le temps de faire des séances de pénalties. Mais enfin.
Donc.
Il a essayé Ter Stegen. Il savait très bien comment.
Ter Stegen,
c'est pour ça qu'il a fait le gogol sur sa ligne. Bon, essayer de le déstabiliser parce qu'il savait très bien qu'il avait en face. Il a un monstre. Il fait le job.
Mais avant ce penalty que va bien gratter Dembélé parce que il tombe sur un gars qui est encore plus gogol que Cancelo. Enfin, et en fait, j'ai vu ce penalty, j'ai dit mais ça c'est un penalty made in PSG qu'on a vu 15 fois.
C'est la faute que tu vas faire.
La faute Thilo Kehrer, comme on l'appelle quoi. Enfin c'est
la faute que tu fais à pas du
à
tout dans la.
C'est ça, tu te sabordes tout seul parce que avant ça, on a vu que la façon de tirer les corners a été modifiée côté Paris. On a vu que t'as Dembélé qui a envoyé directement, qui a failli faire un coup franc direct, mais qui part petit filet. Un autre qui passe même pas Lewandowski qui est au premier poteau. Bon, tu vas me dire, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt, donc forcément, il arrête tout au premier couteau. Mais donc, Paris décide de tirer les corners en deux temps, en décalant à chaque fois et en essayant de trouver une position de frappe. Et donc là, bah là, apparemment Barcelone, pas du tout préoccupé. Ils se disent bon, bah de toute façon à Paris, ils ont pas de mec qui frappe en dehors de
ils
la
surface. Ils avaient l'habitude de Verratti. Tu crois pas qu'ils tirent à 25 mètres.
Donc on voit que sur l'action, c'est décalé sur le côté. Enfin, c'est tout du moins c'est frappé par Dembélé, Achraf qui décale sur Vitinha, Vitinha qui est absolument pas attaqué. Et ben comme il l'a fait depuis le début de saison, parce que c'est son 9e but et le 5e en dehors de la surface de réparation. Donc là, c'est une frappe qui est pas non plus oufissime, parce que je crois que sur en XG elle est à 0,3, donc c'est pas quelque chose qui est hyper bien cadré. Non, enfin c'est bien cadré, mais voilà, c'est pas non plus la frappe du siècle. Mais elle est assez bien puissante, bien placée. Et ça fait le 2-1. Mais on voit sur l'action, t'as Lewandowski qui monte en petite foulée sur lui. Mais voilà, ça sort pas. Enfin, c'est vraiment.
Bah après, comme tu dis, Arroyo qui était plus là. Oula, quelle occasion pour.
Ouais.
Magnifique occasion pour City là. Mais voilà, il manquait un joueur aussi dans la surface quoi. Mais voilà, c'est pour ça que voilà, j'avais fait sur le groupe, j'avais dit oh là là Vitinha parce qu'il avait fait un tir.
C'est vrai qu'en première mi-temps, il a tué un pigeon sur une action.
Voilà. Donc j'ai dit oh, c'est pas possible quoi. Donc mon camarade voilà Arnautovic m'a dit mais non, mais il en a quand même marqué comme ça. Et en effet, il en a marqué un. Mais quelqu'un d'autre m'a fait remarquer aussi, ou c'est toi-même, ou non, je crois que c'est, je sais plus, qui m'a dit, mais oui, mais en même temps, il manque un joueur pour défendre. Ce qui n'est pas faux, parce que, bon, voilà, comme on dit,
Lewandowski.
Voilà, Lewandowski monte histoire de dire, bon, j'ai fait un demi-effort pour aller contrer, mais bon, on sait que ça ne sert à rien, quoi. Une fois que la frappe est enclenchée, t'as beau montrer ton cul au mec qui tire, ça ne change pas grand-chose.
Voilà. C'est vrai que c'est aussi une des solutions de sortir un peu plus de personnes de la surface. Tu désensifies devant le but et ça peut toujours fonctionner aussi. Mais en tout cas, là, sur l'extérieur, ça a bien fonctionné. Et donc là, en plus avec ce but-là, là tu sens vraiment que ça commence à puer vraiment pour Barcelone. Et donc la fameuse erreur de Cancelo qui fait vraiment n'importe quoi, qui provoque ce penalty sur Dembouze, transformé de magnifique façon. On en a parlé par Kylian. Et là, ça commence à bouger. T'as Pedri qui sort, Ferran Torres qui rentre. Et là, c'est un temps fort quand même de Barcelone qui est.
Ouais, parce que
Torres, bah là, à ce moment-là, ils sont justement. Ouais. Il leur faut marquer parce que au jeu des buts, ils sont derrière à 3-1. Donc ils doivent revenir, ça pousse, mais ça ne se concrétise pas. La défense de Paris tient bien le choc, donc ça joue un petit peu à toi, à moi. Le jeu des remplacements se fait. Likanguin qui rentre, Marco Asensio, un peu après Manuel Ugarte pour un peu densifier ce milieu. Ça passe beaucoup par l'axe, forcément, parce qu'il n'y a plus personne sur les côtés. Côté barcelonais, donc tu fermes bien. Y a quand même pas mal d'occasions, mais vient la 88e. Mbappé, justement, qui est très actif à la récupération. Hakimi qui fait un sprint pour récupérer, qui lance Kylian. Kylian qui perd son duel face à Ter Stegen. Très très mal joué de sa part, hein. C'est-à-dire, il frappe sur lui alors qu'il peut tout faire quasiment, il peut la placer, la piquer, enfin bref, ça revient sur Asensio qui te décoche une frappe encore super bien sauvé par Ter Stegen. Là, ça revient sur, il me semble, c'est Koubarsi qui dégage sur le cul de Koundé.
Oui, c'est le cul de Koundé qui. Ouais, voilà.
Ça revient par magie. Ça revient par magie.
Et comme il y a un joueur qui est décalé, voilà, qui est sur la ligne avec Ter Stegen.
Sur la ligne, Kylian n'est pas du tout hors jeu.
Pas du tout hors jeu. Ben, il a bien suivi. En fait, il a. Quand tu revois l'action, c'est vrai qu'il attend en fait. Enfin, il sait le. Enfin, c'est l'expérience aussi.
Bah, enfin, c'est un but que tu vois plus dans la gamme contre Gonçalo Ramos, c'est-à-dire vraiment le renard de surface, bien placé, où il s'est gagné à l'époque.
C'est pas évident que la balle, tu vois, même si elle tape le cul de Jules Koundé, elle peut partir.
Ah bah oui, c'est vraiment le billard.
Là, vraiment, il voit la balle qui arrive sur lui, ping, il se pose pas de questions. Et là, c'est là où je pense que oui, l'équipe a dit oh quel génie, quel talent, quelle magnificence, machin. Voilà. Donc là, je pense que c'est là où le journaliste a mis sa note de l'équipe. Mais
bah après, voilà, c'est le bonus. Tu mets 2 buts en quart de finale de Ligue des Champions, donc t'as 8. Et ça, je l'ai entendu sur le plateau de l'équipe du soir après, hein, Mélissandre Gomez qui te fait « De toute façon, tu peux pas mettre une mauvaise note à Mbappé, il a quand même mis 2 buts. » Merci Mélissandre, tant d'années de journalisme pour te dire des banalités comme ça. Enfin, mais ça, c'est ce qu'on reprochait souvent à Mbappé, c'est que soit il avait 3, soit il avait 8, parce que finalement, ce qui lui sauve ses matchs, c'est qu'il va te mettre des buts. Après, il est payé pour ça. Hein. Et on rappellera jamais assez que le plus difficile...
Bah, il est payé pour jouer au foot.
Le plus difficile, c'est pourquoi les attaquants sont les mieux payés du monde avec les transferts les plus onéreux. Parce que marquer des buts, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Le copyright, je crois, appartient à Laurent Blanc, qui avait sorti ça en conférence de presse. Donc ça faut jamais oublier. Donc Paris finit tranquille le match. Barcelone a vraiment eu des occasions pour revenir alors à 3-2, mais de toute façon, même si ça allait en prolongue, je pense que Paris avait encore un peu de réserve et plus de carburant dans les chaussettes, et quoi qu'il arrive, je pense pas que ça serait allé au tir au but, ça se serait terminé avant avec un score beaucoup plus large, parce qu'au niveau des grosses occasions, Paris en a quand même 6 sur le match, ils en manquent 3. Et Barcelone, finalement, n'a qu'une grosse occasion et ils la mettent. C'est donc la première du match. Donc, qualification tout à fait...
Bien aidée aussi par les Parisiens.
Qualification tout à fait logique parisienne sur cette deuxième mi-temps barcelonaise qui m'a fait penser au pire première deuxième mi-temps de Paris. Et on en a quand même vécu quelques-unes, en tout cas. Et j'avoue, c'est vrai que les gros plans... sur les enfants barcelonais qui pleuraient. J'ai souri.
Mais il y a un petit point tactique.
Non, c'est pas possible. On ne peut pas dire des choses pareilles. Si. Tu as des enfants.
Ça m'a tellement fait plaisir. Ils ont mangé leur somme bien comme il faut. À noter et.
Mais ce qui m'amuse, c'est les Barcelonais qui crient après l'arbitrage, quoi.
En Espagne, vraiment... c'est magnifique, hein. Dire la presse. Et nous, en France, on aurait fait Paris aurait fait ce match, donc aurait perdu 4-1 à domicile avec un match pareil. Mais alors, l'équivalent de Cubarsí, ça aurait peut-être été Lucas Hernandez ou plus probablement Marquinhos ou Beraldo. Mais le mec, je pense qu'il devait changer de nom, prendre un passeport et partir, tellement il se serait fait défoncer. Paris se serait fait défoncer à raison, parce que quand tu fais ce type de deuxième mi-temps ou ce type de match, c'est regarde, l'incident industriel et professionnel, quoi, sur ce genre de choses. En tout cas, voilà, le match se termine, victoire. Victoire bien dans la besace. Et rendez-vous donc en demi pour affronter Dortmund. C'est avant.
Le 8 mai. Le 8 mai, c'est le match retour, pardon. Oui, c'est le 8 mai. Le 8 mai au Parc. Paris.
Le truc que j'ai trouvé quand même très impressionnant. Alors, Vitinha, je pense qu'on peut louer vraiment sa transformation. Mais il y a un truc, moi, je voudrais dire, et que. Il y a des fois, on parle souvent d'un seul joueur, il y a des fois dans une équipe. Là, je voudrais dire la complémentarité du milieu de terrain de Paris, qui, je pense, a été vraiment trouvée entre Zaïre Emery, Vitinha et Fabian Ruiz, qui, en fait, je trouve que Vitinha n'est pas véritablement le 6 qu'on peut attendre, c'est-à-dire les 6 à la Makelele, les gens qui vont avoir beaucoup d'abattage et qui vont beaucoup récupérer. Mais c'est une sorte de faux libéraux. De faux libéraux, un peu, tu vois, ou qui arrive un peu à dissoudre énormément de ballons. Et en fait, je trouve que Zaïre Emery et Ruiz arrive justement à compenser le manque de travail défensif de Vitinha. Et c'est pas, on va dire, des milieux de projection. C'est, ils arrivent à le faire quand même. Mais je trouve qu'il y a un vrai équilibre entre les trois sur le travail défensif qui peut être fait. Fabien Ruiz, c'est pas vraiment non plus un numéro 6 quand il a été positionné à ce poste-là. C'est, tu sens qu'il n'est pas forcément à l'aise non plus. Si tu mettrais Zaïre Emery, je pense pas non plus que ça soit le poste où il s'éclate le plus.
Mais même s'il est formé à ce poste-là, Warren.
Ouais, mais il est encore un peu jeune. Il faut qu'il prenne, je pense, peut-être en capacité, peut-être encore un peu plus en vis, même si je le trouve déjà très, très intelligent. Mais je trouve que là, tu te rends compte que Zaïre Emery, 18 ans, Vitinha, 23 ans, et Ruiz, il a quel âge? Il a 28, non?
Ouais, 27, 28 par là, ouais.
Pendant 2-3 ans, vous pouvez avoir un milieu qui est quand même hyper complémentaire.
Je pense que la saison prochaine, tu as un ou deux milieux qui débarquent.
Ouais, mais c'est, parce que, et ben justement, ça serait une erreur. Pour moi, c'est vraiment une erreur.
Ça dépend que de milieu, tu vois, parce que si vraiment ça se fait, c'est Bruno Guimarães et ou Bernardo Silva qui débarquent. Je crois que tu gagnes en qualité.
Bernardo Silva, moi je le mettrais plus à la. Maintenant je le mettrais. Enfin, je sais pas.
Bah, en fait, il peut jouer ce double poste. C'est pour ça que c'est un joueur qui est ultra Luis Enrique compatible. Oui. Parce que Luis Enrique, il veut du joueur polyvalent comme lui il l'était. Et en fait, les monoprofils, ça l'énerve au plus haut point. Ouais.
Mais en même temps, tu as une vraie complémentarité. Tu vois que les trois, ouais, ça travaille super bien ensemble.
En fait, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, notamment sur le fait que Warren est quand même dans le creux depuis quelques mois. Mais,
non, mais t'es obligé
il est assez intelligent pour savoir qu'en ce moment, il n'est pas ouf. Donc, il va essayer d'optimiser ce qu'il fait. Mmh. Et donc, il se projette beaucoup moins, il porte moins le ballon, ce genre de choses. Mais il permet à Vitinha d'avancer. Et il y a toujours ce rôle de compensation entre les deux, où c'est hyper intelligent. Et on a vu que Ruiz était un peu plus sur le côté gauche, où ça matchait beaucoup avec Barcola, ça dédoublait. Avec Nuno qui venait aussi s'insérer pour faire des triangles.
Et Ruiz, il ne faut pas oublier que c'est un gaucher, donc ce gaucher à gauche qui permet de dédoubler avec Barcola quand Barcola revient au centre, c'est aussi un énorme avantage pour lui.
Mmh. Donc,
au moins, il joue à son poste, c'est ça que je veux
non,
dire.
C'est pas moi qui dis la phrase. Vous êtes éliminé.
donc c'est vrai que c'est ce milieu terrain qui finalement, quand on au départ sur la compo, on se dit, bah oui, en face, Gundogan, De Jong, Pedri, bah, intrinsèquement, si tu joues à FIFA, tu regardes les cartes, c'est largement au-dessus. Et à l'arrivée, sur le match, ils se sont fait défoncer. Gundogan, au moins, il était beaucoup plus lucide que son entraîneur sur le match en question. De Jong, Pedri, on a vu que ça revenait de blessure, donc c'était pas forcément au top. Donc, en tout cas, voilà, Barcelone s'est fait anéantir sur le jeu et sur la tactique.
Voilà. Mais moi, les Parisiens que je connais, enfin, pas vous spécialement, pas Arnaud spécialement, mais d'autres, moi, ce qui m'a un peu agacé chez les Parisiens, c'est de se dire « Oh, ben, on se tape le Barça, ça va, ils n'ont rien prouvé depuis. » Et quand même, la piqûre au match aller… Voilà, donc ça a quand même remis les Parisiens à leur place. Hein, ils sont pas.
Mais on avait fait tellement un mauvais match, et surtout et ça je l'ai entendu quand même pas mal.
Oui, mais faut jamais oublier ouais, l'adversaire. Et Dortmund, ça sera pareil. Mortoun, ils en mettent des buts.
Hein, ouais, mais ils en prennent aussi.
Donc oui.
Et justement,
Paris aussi,
merci Jérôme de faire cette superbe transition. Parce que nous, on va faire une micro preview parce que il y a Carlos qui doit vite.
Je vais vous laisser faire la preview.
Ouais. Ça marche.
Je vous laisse. Et puis normalement, on doit se dire à vendredi.
À demain. Tout à fait pour faire les braquettes.
Vendredi.
NBA. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que c'est.
Bonne soirée à vous. Continuez bien.
Salut.
Ouais. Et vive la GIA.
Ha ha ha. que la GIA déjà remonte en Ligue 1
avant de penser à la Ligue des Champions. En Ligue 1, avant la Ligue des Champions, oui.
On sait jamais si c'est comme dans Football Manager, t'as un riche homme d'affaires qui rachète le club, pourquoi pas.
Oui, question, oui, je sais pas ce qu'il fout à Auxerre, mais bon, oui.
Donc, donc, Dortmund.
Ouais, donc.
Qui, finalement, eux aussi, ils ont eu leur lot de peur, du côté du Signal Iguna Park, ou Westfalenstadion, ça voilà, dépend. Mais... si vous aimez le naming ou pas, ils partent 2-0 à la mi-temps. Ils ont refait leur avantage parce qu'il y avait eu 2-1 au match aller. Alors, le match aller, première mi-temps maîtrisé par l'Atletico, beaucoup plus compliqué sur la deuxième et Dortmund finalement qui revient à 2-1 de manière assez logique. Et le match retour, bah, Dortmund qui met une bonne pression et qui mène 2-0 à la mi-temps. L'Atletico qui revient avec beaucoup d'autres ambitions sur la deuxième mi-temps, qui rapidement met deux buts et donc revient à 2-2 et à ce moment-là est donc qualifié sur l'ensemble des deux matchs. Et là, bah, pareil, Dortmund trouve des ressources. Premier but, un centre avec une tête reprise de Füllkrug et qui finit petit filet opposé en lobant au black. Et je crois que c'est Sabitzer qui met le quatrième sur une belle frappe et là ça restera 4-2 et donc Dortmund passe. Ce qui fait donc que Paris et Dortmund se retrouvent en demi après s'être affronté en phase de groupe. Le fameux groupe de la mort où les gens se sont gossés en disant ah, « groupe de la mort, finalement, c'est que des équipes moisies qui sont dedans de même niveau et c'est un groupe de la mort hein, qui n'en est pas un ». Bon, en attendant, donc il y a le premier et deuxième de ce groupe qui finissent en demi-finale de Ligue des Champions. Ok, il y a le tirage au sort qui fait que c'est pas forcément dit si tu es dans l'autre partie du tableau et que tu te tapes le Bayern, Arsenal, City ou le Real. On est d'accord. Et ne pas oublier que le troisième de ce groupe est toujours qualifié en Europa League, alias le Milan. Donc c'est quand même pas mal pour un groupe qui était moisi. Ton sentiment, Jérôme, sur cette demi, on rappelle, Paris qui avait gagné 2-0 au Parc sur un Dortmund qui était quand même pas ouf à ce moment-là. Le match retour un partout où Dortmund va beaucoup, beaucoup mieux, à la fois en championnat et ça se traduit sur les autres matchs parce qu'ils finissent premier du groupe, un point devant Paris. Un partout sur le match, sachant que Paris a quand même pas mal d'occasions et doit gagner ce match aussi. Donc, normalement, ça doit le faire. Moi, sur ce que je sens avec ce que j'ai pu voir de Dortmund depuis cette double confrontation, c'est que c'est un club qui est très irrégulier, capable du pire comme du meilleur, à la fois d'un match à l'autre, mais pendant un même match. Et finalement, ça reste la version à peu près pareille, voire un peu moins bonne, du Dortmund du match retour en phase de groupe. Alors que de l'autre côté, Paris a progressé et est beaucoup plus fort collectivement. Va arriver alors que le championnat est bouclé, que la finale, bah, tu la joues après la fin du championnat et avant la finale de Ligue des Champions, et avec tous tes joueurs, avec aucun suspendu pour le match, enfin pour la double confrontation. J'ai envie de dire que tous les voyants sont au vert, mais est-ce que c'est pas le gros souci avec Paris?
Voilà, non, mais c'est le problème parisien, c'est que voilà ce que je disais, la comparaison avec Barcelone, c'est ça, c'est qu'il faut pas non plus se dire moi j'y croyais pas hein, franchement sur le match retour contre Barcelone. Pareil, j'ai des Parisiens qui m'ont dit si on va le faire, mais bon, tout supporter dira que son équipe va le faire, c'est même si elle le fait pas, voilà. Bah, on aura oublié qu'il l'a dit qu'il allait le faire. Enfin bon.
Là-dessus, je connais pas mal de supporters, et même ça a pas mal mis sur les réseaux, même les gars qui faisaient des vidéos, etc. En fait, ils ont été regonflés. Alors, toi déjà supporter, donc j'imagine même pas si Luis Enrique a ces mots-là envers ses joueurs. Mais après sa conférence de presse de mardi, Et les gens étaient requinqués. En fait, ils y croyaient. Et rien qu'avec les mots de l'entraîneur, tu sentais que bah, sur le banc, tu n'avais pas un Galtier, tu n'avais pas un Pochettino, tu n'avais pas une mauvaise version de Tourelle. C'est, en fait, les gens étaient requinqués. Et en fait, comme on l'a dit pendant le débrief, enfin notre petit débrief de tout à l'heure, c'est que même mener 1-0, tu sentais que les mecs n'étaient pas abattus, parce que c'est vrai qu'il y a quelques saisons, bah, ça aurait baissé les bras, ça aurait baissé la tête.
Oui, je pense aussi le fait que Luis Enrique soit passé par Barcelone, qu'il connaisse la maison, voilà. Dembélé, moi je pense que Dembélé ça a joué beaucoup. Hein. Dembélé, c'est que pour moi, il a eu le trophée, hein, c'est l'homme du match.
Alors que c'est Vitinha qui doit l'avoir pour moi. Mais ils estiment qu'avec le but et le pénalty provoqué.
Le but, le pénalty provoqué, puis surtout il va chercher. D'un moment, il est devant Marquinhos pour récupérer un ballon en défense. Enfin, non, il est. Moi, je pense qu'au niveau de la motivation, il était surmotivé parce qu'il en a pris plein la gueule quand même. Voilà. Dortmund, il y est passé aussi, mais bon, il sera moins, comme tu le dis, c'est pas. Mais voilà, il faut se méfier. Et je pense que les Parisiens maintenant. Enfin, j'espère. Alors, moi, je serai directeur sportif. De Paris, j'enfermerai tous les joueurs jusqu'au
Ah non, malheureux. Jusqu'au match aller. Tu vas fausser le championnat.
Non, mais je les enferme, surtout je les empêche d'aller parce que le problème à Paris, on sait ce que c'est que puis surtout bien faire la fête, hein. on sait pourquoi les gens viennent à Paris.
Il y a quelques carrières qui sont parties en sucette.
Qui sont partis en cocktail et autres, je serai l'entraîneur, l'entraîneur, le directeur sportif, je les enfermerai, il va être occupé, mais tu prends Clairefontaine ou n'importe quel endroit où leur nouveau, il est prêt ou pas leur nouveau centre d'entraînement à la Poissy, non, c'est pas encore...
C'est livré depuis quelques mois, quand même.
Oui, c'est ça. Ouais, donc tu les enfermes là-bas et puis tu les laisses à Poissy. Poissy sur la 13, là, ça... s'ils ont besoin, tu les envoies en Normandie, tu les envoies sur la côte et puis c'est tout quoi. Mais franchement, moi je pense le seul problème de Paris, c'est qu'il pourrait être trahi par ses joueurs quoi. Parce que là, il n'y a pas de raison.
Mais en tout cas, tu avances aussi avec plus de sérénité parce que tu as cet entraîneur là quoi. Enfin...
Oui, mais oui. Mais parce que t'as un entraîneur, t'as un petit côté, t'as un petit côté Mourinho chez lui, t'as un petit côté, toute proportion gardée, Guardiola ou Klopp, parce que je pense pas que ce soit quand même un tacticien au niveau des deux autres.
Il est en dessous, mais il a cette envergure. Enfin, tu sens qu'il a les épaules pour le poste.
Voilà, le mec il a joué au plus haut niveau, que ce soit en championnat ou même si en équipe d'Espagne, quand il était en équipe d'Espagne, c'était pas la grande, c'est pas l'équipe d'Espagne, mais il a côtoyé, enfin ce type-là, il a été au sommet quoi, donc il sait, c'est l'entraîneur qui a manqué. Moi je disais souvent, Paris aurait dû prendre dès le départ pour mettre les joueurs.
On en avait pris un.
Prendre Mourinho.
Mais il est parti au Real Madrid après. c'est aussi ça.
Mais tu aurais pris un Mourinho, tu vois, peut-être avant ou après Ancelotti. Là, tu mettais le vestiaire.
À l'époque, 2012, Mourinho, il est quand même. C'est encore le special one. Tu vas pas le chercher comme ça.
Oui, il est très cher, oui. Oui, il est très cher, je sais. Mais quand tu vas chercher des Neymar et des Messi, j'ai un copain qui m'a dit ça. Il me dit mais tu peux pas payer Mourinho. Excuse-moi, après tu prends Neymar et Messi, tu les payes comment? Donc tu pourrais plus très bien payer un Mourinho. C'était pas la priorité, mais moi je pense que ça aurait aidé Paris à arriver beaucoup plus rapidement dans le cercle des grands.
Paris a fait un peu comme City, c'est-à-dire que tu as beaucoup mis d'argent pour sur le bling-bling généralement personnifié par les attaquants et les milieux. Et je vais pas dire que la défense était le parent faible, mais généralement tu avais pas forcément besoin de contribuer à mort parce que Bah, t'avais un Thiago Silva qui tenait la baraque. Très rapidement, tu vas prendre aussi Alex et Thiago Motta au mercato d'hiver quand Ancelotti arrive. Sachant que tu fais venir aussi Zlatan et Thiago Silva l'été suivant parce que t'as aussi Ancelotti sur le banc et tu profites des malheurs financiers du Milan. Parce que sinon, tu fais jamais venir les deux joueurs. Mais avec Ancelotti sur le banc, tu convaincs plus facilement. Parce qu'après, même si tu leur proposes un pont d'or, Antoine Comboiré sur le banc, je suis pas forcément sûr que Zlatan vient à Paris. Donc, tu as aussi ça. Après, tu as des entraîneurs qui ont été aussi là peut-être un peu trop tôt. Euh,
Emery.
tu, tu prends Emery, voilà,
Bah là,
typiquement.
Emery, c'est le. Bah oui, mais c'est le cas classique. C'est le
Et
cas classique de.
Emery qui revient avec plus aucune des starlettes à gérer. Enfin, on se rappelle quand même. Alors, les gens ont tendance à dire que le
Ah non, mais au
4-0
niveau
contre le
tactique,
Barça.
tu prends un Emery justement
Ouais.
après, tu vois, à la place d'un Pochettino, quoi, quand tu as un peu ton vestiaire
La
qui est à peu
Pochettino,
près.
lui, c'était
Pochettino,
le mec, il a
c'est une
rien fait.
rigolade. Enfin, franchement,
Si,
c'est.
il était concentré sur les matchs de Ligue des Champions, parce que c'est vrai que tu vas quand même en demi avec lui, mais tu avais vraiment l'impression que c'est les seuls matchs qu'il préparait. Hein. Et les matchs en championnat, on a toujours l'impression qu'il découvrait l'adversaire. Et c'était vraiment. C'est
Ah non,
aussi
mais
pour ça
je.
que on rappellera toujours, hein, et moi-même, je m'enflammais sur les premiers matchs de Paris, même après le 0-0 contre Lorient et le 1 partout contre Toulouse. Mais parce que tu voyais un plan de jeu, tu voyais des choses, tu voyais une intention. Alors que les années passées, c'était le plan de jeu, c'est filer la balle à Neymar, Mbappé et Messi quand il est venu se greffer, et YOLO. Ça va bien en championnat. Parce que la Ligue 1, t'as pas forcément la même confrontation en face, la même qualité. Et sur 38 journées à l'époque, tu fais le travail. C'est-à-dire que le talent peut suffire. Mais en Ligue des Champions,
Non,
tu
mais
sais, tu fais pas.
t'as jamais aucune équipe, même le Real, t'as jamais aucune équipe
Bien sûr.
où, tu vois, même quand t'avais Ronaldo au Real, c'est pas
Oui.
Ronaldo qui faisait gagner le Real systématiquement.
Il contribuait, mais
Bah, bien sûr, c'est voilà.
la finale contre l'Atlético, où ils sont mal embarqués, c'est pas Cristiano Ronaldo qui les sauve, c'est Sergio Ramos et Gareth Bale. C'est pour ça
Exactement.
qu'il y a les gens, le
Ah,
manque
ou
de
la finale, la
considération pour le
fin.
passage de Gareth Bale au Real Madrid. Je pense que les madridistes, ils ont quand même la mémoire un petit peu courte. Hein.
Bah,
Donc,
parce que. Mais, et pareil, la finale contre Liverpool, bah, tu vois, t'as Vinicius qui est à son top. Enfin,
et Thibaut Courtois surtout.
et Courtois, oui.
Mais toi qui es
Mais.
supporter de Liverpool, tu sais très bien que le collectif sublime les individualités.
Mais bien
Parce qu'on a
sûr, oui.
bien vu que Sadio Mané, qui est parti de Liverpool, ça a fait un flop monumental au Bayern. C'est pour ça que Salah qui part de Liverpool, je ne sais pas ce que ça pourrait donner dans un autre club. Parce qu'on a vu qu'à
Non,
la
mais
Roma, c'était quand même pas oufissime.
je pense qu'il va partir. Il va partir au Qatar ou Arabie Saoudite. Enfin, il va partir dans ses. Il est. Et lui, en plus. Enfin, s'il y en a un qui est bien placé, je veux dire, pour aller dans ce championnat-là et prendre sa retraite. Ben voilà, c'est quand même le joueur. Lui, il fait pas semblant, quoi. Il est musulman, il est égyptien, donc il est près de chez lui. Ben voilà, moi je vais pas crier. Et l'Arabie Saoudite lui a offert un pont d'or pour monter cet
Oui,
été.
mais
Il
là,
n'est
le
pas
fait que le
parti.
club s'en aille, oui, je pense
Ah ben bien sûr,
qu'il
non,
y
mais là c'est pas de
réfléchira
l'illusion.
beaucoup plus, quoi. Il lui reste
Voilà.
combien de temps de contrat à
Ça,
Salah?
je sais plus, c'est 1 ou 2 ans, mais je crois que c'est qu'un an hein, même. Je crois que c'est justement si Liverpool veut en tirer quelques voilà
D'ailleurs, tu as
quelques bénéfices.
entendu un petit peu, d'ailleurs, ils attendent de prendre le nouvel entraîneur pour voir au niveau des joueurs ou
Ah
tu.
ouais, non mais tant que, enfin là c'est concentré sur le titre et tout quoi. C'est, enfin moi j'ai pas vu du tout, il n'y a pas de sortie. Et on a parlé de évidemment
Le
de
Xavi, Alonso, Xavi,
Xavi
oui.
Alonso, pas Javi, pas que Xavi, Xavi Alonso pour évidemment. Mais est-ce que lui va quitter
Je pense pas. A priori, il a dit qu'il
Casa?
restait.
Bah. En même temps, il poursuit. Alors, je sais pas. Je vois pas qui. J'espère pas qu'on va nous. Enfin, après Klopp, tu peux pas prendre.
J'ai entendu Amorim, l'entraîneur du Sporting.
Ouais, ben, je sais pas. Ouais, ça va être compliqué, hein, parce que de passer après Klopp, ça va être très compliqué.
Ah, mais bon. Oui, c'est clair, comme le mec qui succédera à Guardiola à City.
Ah bah oui.
On l'a vu, ceux qui ont succédé à Sir Alex Ferguson à Manu, ça a été compliqué aussi. Hein. Voilà. Mais à plus petite mesure, là, Carlos n'est pas là, mais la GIA, une fois que Giroud a laissé les rênes, c'est parti à volo aussi. Hein. Donc c'est... Quand tu as un entraîneur comme c'est toujours compliqué. Hein.
Ouais, je dirais même Nantes avec Coco Sedo à l'époque. Hein,
Oui, c'est vrai.
Bah, les... Toute la clique Sedo, Buzinski, etc.
Denwex.
Voilà, toute cette formation. Voilà, c'est un peu ça qu'il y a aussi. Voilà. Mais bon, non, je parie. Paris a les clés pour aller en finale. Et puis, à eux de bien les mettre dans la serrure et de tourner la clé du bon côté, quoi, parce que il y a aucune raison que voilà.
En tout cas, d'après les bookmakers, Paris a la deuxième cote après City. Donc
pour la finale.
Pour la finale, ils sont à 4,50 pour remporter la Ligue des Champions, sachant que City est à 2 et quelques. Mais bon, pour ça, il faudrait déjà qu'il se qualifie parce qu'on est à la
50e minute de jeu. C'est Madrid qui a le pied sur le ballon, là. Et, ils ont toujours un but d'avance, ces Madrilènes. Et ils ne lâchent pas le ballon. Hein.
Non, c'est compliqué.
T'as un Kamavinga qui est bien qui est bien reculé comme un libéro, là. Mm. Il fait des allers-retours. Enfin, il est. Je pense qu'il profite de ses trois poumons pour le faire monter, descendre.
Le rôle de Tchouaméni qui est suspendu, quoi.
Ouais. Ah bah il est. Ouais. Bah lui, tu vois, quand tu parlais d'Enrique qui aime les joueurs polyvalents, lui au moins, t'es un joueur polyvalent, quoi.
Bon, en tout cas, toi, selon toi, Paris, normalement, maintenant, doit se qualifier et dire que.
Voilà,
avec Barcelone, parce que c'est deux équipes qui se valaient. Je crois qu'on
faut se méfier, mais c'est toujours, 45, mais c'est dans le foot, faut toujours se méfier de n'importe quelle équipe. Là, regarde Liverpool, on ne s'est pas méfié, on s'est dit, la Bergame, c'est bon. Bah non, tu as pris trois pions, donc oui. Comme tu le dis, Dortmund peut prendre des buts, mais Paris aussi, et ils peuvent en marquer. Donc,
sur cette fin de saison, Paris a quand même un avantage sur Dortmund, c'est que Dortmund ne va pas pouvoir se reposer en championnat parce qu'ils sont à la lutte avec Leipzig pour la quatrième place, sachant qu'on l'a dit, avec le jeu des meilleurs coefs nationaux, les deux premiers ont une place en plus en Ligue des Champions, donc il se pourrait quand même que cette cinquième place en Allemagne puisse être quand même.
Oh là!
J'ai vu l'action un petit peu avant toi.
j'ai cru qu'Alain voulait pousser le joueur dans le but avec le ballon. C'était assez,
c'est ça.
Ouais, c'était assez impressionnant. vraiment dans FIFA, là.
ou dans un épisode
d'Olivier Tom. Ouais, c'est ça. Si je peux pas faire rentrer le ballon moi-même, je vais pousser le joueur dans le but.
Pour les puristes, la Muppets contre la Toho, où il y a tous les joueurs qui se mettent. T'as 11 mecs qui taclent le ballon en même temps pour mettre le but à Ed Warner quand même, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je vois ça aussi. Hein, c'est-à-dire, si Paris est sérieux. Normalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la fois on a le calendrier où on peut bien reposer les joueurs parce que il suffit pas grand chose, c'est-à-dire que ça.
Et vous allez fausser le championnat maintenant, c'est ça qu'on va vous dire.
Dire que tu bats Lyon, et c'est facile, tu bats Lyon dimanche et tu bats Clermont en milieu de semaine, t'as 16 points d'avance sur Brest. Et donc 15 points à prendre, et donc c'est terminé. enfin même pas, c'est-à-dire que ça peut même être fini ce week-end. Si Brest fait une contre-performance et que Paris gagne, ça peut quasiment être terminé. Donc Paris champion, ça, tu feras encore plus tourner. Et dans ce cas-là, peut-être que le président du Havre sera très soulagé de voir que Paris aligne Mayulu et Zagué sur le sur le côté. En bref, encore. Et ça va être au repos, mais même on a vu que contre Clermont, normalement Paris doit largement gagner le match et que ça tourne pas forcément en la faveur des Parisiens, mais bon, en tout cas oui, sur la fin de championnat, t'es beaucoup plus tranquille, t'abordes la fin de saison avec ton équipe au complet, sans aucun bobo, bref, tous les joueurs sont concernés à la fois en championnat et dans la Ligue des Champions. On a bien vu les images à la fin du match où c'est pas fin, t'as vraiment une équipe. Enfin, et ça fait longtemps que ces images-là, on les avait pas vues à Paris, quoi. Où t'as tout le monde qui est content, même Carlos Soler, qui est là. On sait qu'il va très probablement partir l'été prochain, mais le mec, voilà, il fait partie du projet. Et maintenant, plus que sur un malentendu, il peut être champion d'Europe, quoi. Donc, au moins finaliste de Ligue des Champions.
C'est tout ce qu'on leur souhaite.
Et tous. En tout cas, on te le souhaite, voilà. Comme dirait l'autre.
Voilà.
Bon, Jérôme, je pense qu'on a. Bon.
On a fait le double, bon, comme d'hab.
Bah, 30 minutes, c'était un peu notre intro, hein, limite.
Ouais, donc, d'accord, c'est ça. C'est, on présente l'équipe, on présente les joueurs un par un. Puis ça. Après, on développe. Voilà.
De toute façon, on a même dérivé un petit peu sur Liverpool, mais ça a
été
longtemps qu'on n'avait pas eu. Tiens, je t'ai pas lancé sur Rennes, sur comment tu voyais la
fin de saison. Non, même si un derby, je suis même plus motivé par un derby, tu vois.
C'est Rennes-Nantes ou Nantes-Rennes?
Ouais, non, c'est Nantes. Non, puisqu'on a perdu chez nous. Donc, on va jouer à Nantes. Ouais.
C'est bien ça, c'est Nantes. Hein,
d'habitude, on joue à la maison quand on va à Nantes, mais bon, là, je sais pas. Cette fin de saison me fatigue en Ligue 1. Mais bon, voilà, en espérant de meilleures fin de saison en Première Ligue.
Ouais, ça c'est.
Et comme City joue pas ce week-end, ça va encore. Ils jouent ce week-end, mais en FA Cup, donc voilà, il y aura un match en retard encore, donc ça va. On va pas savoir. C'est talonné puisque. Voilà, on verra. Contre Fulham.
Ça marche.
Déjà demain contre Bergame pour Liverpool. Peut-être le miracle à Bergame, va savoir.
Ah, ça faudra, ouais, puisque là, il y a quand même 3-0. Hein.
Oui, va falloir en mettre des buts.
Coup, c'est une vraie remontada à l'extérieur.
Darwin, va falloir sortir les doigts pour mettre les buts. Ouais.
Mais bon, et on en profite pour faire un coucou à Elio qui nous fait le petit bonsoir venu d'Italie.
Oui, c'est vrai qu'il est en Italie. Mais...
Italie qui brille par son absence. Dans ces quarts de finale de Ligue des Champions. Allez hop, c'est fait. Jérôme, merci.
Allez.
Carlos, on te fait quand même un coucou.
Oui, Carlos, de loin. On t'aime.
Peut-être à lundi.
Peut-être à lundi, oui. On verra selon l'humeur du week-end.
En tout cas, nous, on se retrouve, chers auditeurs, si vous aimez le basket, vendredi, avec Thierry Ampleur et Richard à la présentation pour nos braquettes de play-off. D'ailleurs, une petite pensée à Thierry Ampleur, et qui est donc aussi Tony Parquet, qui a passé, je pense, une bonne soirée hier avec la qualification de Paris et la qualification aussi, le passage en play-off à la 7e place des Lakers, qui se sont défaits des Pélicans. D'ailleurs, j'ai pas profité pour dire à Carlos... toutes mes condoléances pour les Warriors qui sont déjà à Cancun.
J'avais écouté votre émission là sur les playoffs et j'avais regardé un match. Je m'étais réveillé la nuit, j'avais des insomnies. J'avais regardé les Knicks qui jouaient à la maison contre je sais plus qui. qui menaient, mais de façon assez outrancière, et puis qui se sont fait rattraper dernière seconde. Ah, c'était quoi ce match? C'était il y a un mois déjà. Enfin bon, c'était avant les playoffs. Et voilà, les Knicks égale à eux-mêmes, quoi. Enfin, c'est un peu les Knicks, mais voilà, moi, c'est New York toujours, hein, les Yankees, les Knicks, bon, voilà, moi c'est Pat Ewing, moi je suis un vieux, moi, donc... Pat Ewing, c'était pour moi le meilleur pivot de tous les temps, mais voilà, bon, après, bon, c'est compliqué avec New York. Hein.
Bah, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait un petit Karl Malone avec qui il se frittait assez bien.
Karl Malone, mais oui, et puis bon, bah, et puis t'avais dans le... Il y a, bah, évidemment, il y a le Michael, le Magic, Charles Barkley, tout ça. Moi, je vous parle d'une époque, voilà. C'était avant que les États-Unis aillent aux Jeux Olympiques. Avec la Dream Team. C'est Barcelona ça. 92, voilà.
Bah, d'ailleurs, en parlant de Dream Team, Team USA a annoncé les joueurs qui vont faire partie de l'équipe des États-Unis pour les JO. Il y a quelques joueurs qui savent taper le ballon, hein, donc ouais. C'est pas mal. Hein, c'est la meilleure équipe des États-Unis depuis les JO 96.
Ah ouais.
À Atlanta. C'est là, ils envoient l'armada. Dernier championnat du monde, ils ont été ridicules. Dernier JO, ça a été compliqué aussi. Là, les mecs,
ils ont dit stop.
Ouais, ils veulent mettre 40 ou 50 points à tout le monde, hein, mais même si c'est plus aussi.
Bah, nous, on a notre petit Wemby qui va.
Ah oui, bah, nous, ça va être sympa, hein.
Ah.
D'ailleurs, l'équipe de handball a aussi eu son tirage au sort, et match d'ouverture, on aura un petit France-Danemark. Donc, si vous aimez le hand, vous savez que c'est les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontent,
hein. Ah bah, on va faire
dans la simplicité. Donc voilà. Et nous pour le foot, on se retrouve lundi pour débriefer la J30 et les résultats de nos clubs en Europa League et en Conference League, en espérant débriefer des qualifications.
Même si elles sont marseillaises pour un Parisien.
J'ai pas de problème avec ça. Hein. Je sais dire, même à un classico, si Marseille joue mieux que Paris, j'ai aucun problème à le dire. Donc, faut juste arrêter parfois avec le clubisme primaire.
Donc, oui.
On parle avant tout de foot. On est des amoureux de foot et voilà. Je pense que on n'en dira pas plus. Bon, Jérôme. Voilà.
Allez.
Bonne soirée.
À bientôt et
à bientôt.
Bonne soirée, bonne nuit surtout.
Ouais.
Allez, ciao.
Ciao tout le monde.
Tchuss.